Yann Morvan, l'artiste. Par Jean-Louis Vinet. Première partie. La jeunesse, l'apprentissage et l'envol. Dès le début, un travail sur les blousons noirs et les gangs qui se poursuit 40 ans plus tard. Ici, il est question de rencontres, de savoir-faire et du bon usage de l'outil. Pour Yann Morvan, tout commence au cinéma, au Vepler. À l'époque, on y joue La Belle au bois dormant.
Alors mon père, il m'a emmené deux fois au cinéma, parce que mes parents étaient séparés. Donc j'ai vu à 4 ans, quand on habitait encore avec ma mère ensemble, boulevard Saint-Marcel, j'ai été voir La Belle au bois dormant. Mais alors, il ne supportait pas le cinéma très longtemps. Donc j'ai vu les 20 premières minutes et on est parti. Le deuxième, ça a été à Cannes. Il avait racheté le cinéma, les cinémas à Cannes. Et j'ai été voir Mondo Canet. Là aussi, il est resté un quart d'heure, 20 minutes. Et ce qui a donné le titre de mon livre, Mondo Sexe, si tu veux, c'est en hommage au deuxième film que j'ai vu avec mon père, Mondo Canet.
Il n'y a pas que les films où il vient, il part plus tôt, il n'attend pas la fin non plus. Parce qu'un jour, il se pose devant chez toi, il y a ce que tu décris, la comète bleue métallisée qui arrive en bas.
Ouais, il avait une forte comète bleue métallisée, oui, oui. Donc, bon, moi, je vivais avec ma mère donc, dans deux pièces, hein, puisqu'ils étaient séparés, donc ils s'étaient... Enfin, il s'est remarié plus tard, mais bon, il vivait avec sa secrétaire. J'étais d'abord à Antibes, hein, donc j'ai fait Paris, ma mère Antibes, et après Nice. Donc Antibes, c'était CE1, CM1, CM2. J'ai sauté les classes. Parce que j'arrivais de Paris, et je suis arrivé directement en CE2, et après en CM2, bon, rapidement. Et là, il est arrivé voir c'était en CM2, voir la prof en disant « Madame, avec sa forte comète bleue, je suis l'homme le plus riche de Cannes ». Alors évidemment, j'ai eu droit dans la classe à la prof qui dit ben, « On va interroger Monsieur Morvan, le fils de l'homme le plus riche de Cannes ». Alors je te dis pas, j'ai dû faire les devoirs de maths de tout le monde pendant la fin de l'année scolaire. Ça m'a pas aidé, ça.
Mais n'empêche que ton père, en 67, tu fais déjà tes premières photos avec un Instamatic Kodak.
Ouais. J'étais fan de Formule 1 des années 64, 65, 63, Jim Clark, tout ça. J'aimais les voitures. J'ai toujours aimé, hein, j'aime toujours les voitures, les motos, les choses qui font du bruit, qui pétaradent. Et j'avais demandé de m'emmener au Grand Prix de Monaco, alors en 67. Et là, on y va, évidemment, et au milieu du Grand Prix, bah, il s'en va, hein, on part, comme d'habitude. Et c'est la sale année, l'année où Bandini mort brûlé vif dans sa voiture. Je me souviens qu'on était dans la montée de Beau Rivage, et il y avait de la fumée comme ça, et mon père dit « Ça n'a aucun intérêt, il faut me tourner, on rentre. » Mais je me rappelle très bien. J'ai fait des photos à l'Instamatic, parmi mes premières photos. On voit j'ai pas Bandini, mais j'ai Chris Amon qui passe sur la Ferrari numéro 20. Petite photo carrée Instamatic que j'ai toujours. J'étais fan de Peplum. Et j'allais voir, il y avait la séance, le dimanche après-midi, il y avait le cinéma qui s'appelait Antipolis, et là il y avait un péplum italien incroyable, Massiste avec Hubert Reeves, Hercule, enfin j'avais tout ça, quoi. C'était, et je voulais, et puis évidemment, alors le point d'orgue, ça a été, j'avais 8 ans, ça a été Ben-Hur. Ben-Hur, ça a été mon grand film avec Charlton Heston, la course de char, tout ça, Masala qu'on retrouve. Donc, je pense que ça, c'est ça qui a développé mon instinct visuel, ces images incroyables que j'ai essayé de refaire après la course de char, les blessés, ça a été d'une telle force et une telle violence que je me suis dit l'émotion qui en sortait, je pense que ça m'a motivé après. Il y a eu Cléopâtre aussi, que j'aimais moins, parce que bon, Liz Taylor était un peu vieillissante, hein, et puis mais mon grand film, c'était Ben-Hur.
Mais on le verra après pour tes propres photos, pour faire aussi le rapport à l'image. Tu parles de l'image vive, mais travaillée, mais c'est aussi du film.
Mais je fabrique toutes mes histoires comme des films. Vraiment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux faire énormément de livres. Et ça, j'en parle avec d'autres photographes, etc. C'est que quand, par exemple, je sors un sujet de mes boîtes, on peut faire un livre. Parce que ces photos, il y a des plans de coupe, il y a des images fortes, etc. Je fonctionne à chaque reportage à partir de l'âge de 20 ans. Le premier sujet, là, il va être édité le 15 novembre. C'est un bidonville à Nice. C'était le bidonville de la digue de Français. Je pourrais te le montrer, d'ailleurs. Et on va l'éditer le 15 novembre, un booklet de 40 pages, si tu veux. J'ai plus les négatifs. Ils ont été brûlés par un ami photographe qui est parti en crise et qui a foutu le feu à toutes les archives d'une agence qui s'appelait Norma, où j'étais. Mais j'avais récupéré des tirages. On a refait des scans des tirages. Et c'est mes premières images. Mais on peut monter l'histoire. Déjà, parce que j'avais cette idée de film, effectivement, les péplums, comment monter une histoire. Et puis j'étais très bon en rédaction. Mon père voulait que je fasse des maths. Mon père était amateur.
Il y a ça, il y a comment raconter l'histoire. Et il y a peut-être les films, mais il y a aussi les bouquins, parce que je vois que tu te passionnes aussi pour l'Iliade.
Oui. Ça a été, je crois que c'est le prof de, c'est CE2. Tous les mercredis matins, il nous lisait un passage de l'Iliade. Moi, j'avais quoi ? J'étais en CE2, j'avais dû avoir 7 ans, 7, 8 ans. Et j'étais fasciné par l'Iliade. Moi, j'achetais que des bouquins. J'étais seul, j'étais fils unique. Je vivais avec ma mère. Donc, à Antibes, il y avait une petite librairie qui faisait l'angle de la rue Guynemer. Et je passais mon temps là-dedans. Alors, à l'époque, c'était Bibliothèque Verte, puis 93 de Hugo, les choses comme ça. Je disais ça. Et puis, Club des Cinq, et puis un peu tout.
Et tout l'univers.
Tout l'univers, j'allais les chercher. Ça, c'était mon bonheur. J'allais les chercher. Je crois qu'ils sortaient le jeudi ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus. Et là, il y avait toutes ces histoires. Quel bonheur.
Et ensuite, quand tu grandis, tu te lances dans des études de maths, de cinéma, mais en même temps déjà, à partir du moment où tu rejoins l'université, tu commences à vivre des histoires.
Moi, j'ai commencé, je commence à me merder à partir de la seconde, parce que ça, franchement, j'y crois plus. J'ai cru jusqu'en seconde, j'étais en seconde C, ce qu'on appelle S maintenant, et puis il y a eu mai 68, je crois que j'avais 13 ans et demi en seconde. Et puis, je sais pas, j'ai pété un câble. Je crois que j'ai eu une histoire avec une nanette. Et je me suis rendu compte que finalement, la vraie vie, c'était beaucoup plus intéressant que de calculer des fractions et des ensembles. Et donc, je me suis arrêté vraiment de bosser. Bon, j'ai continué, j'ai fait seconde, première, terminale. J'ai eu le bac C ou S, comme on dit maintenant. Et je suis rentré en maths, mais sans y croire. Alors, mon père voulait que je fasse absolument polytechnique. Puis, il avait fait centrale, donc il s'est dit, mon fils sera polytechnicien. Ce n'était pas vraiment le truc. Bon, en plus, j'étais déjà... je voyais pas, donc j'étais avec ma mère, donc je suis rentré dans des mouvements crypto-situ, anarcho-libertaire, etc. Et donc j'ai commencé à militer, un peu genre Black Bloc d'aujourd'hui, quoi. Hein. Et c'est vrai que je suis... bon, j'ai fait MP1, MP2, et puis je vais pas faire prof de maths. À Nice, je suis parti avec ma fiancée. Qui est toujours la mère de mes enfants aujourd'hui. Et on est parti à Paris, elle faisait les Beaux-Arts de Paris, et moi j'étais à la fac de Vincennes. Ça n'a pas duré longtemps, la fac de Vincennes, parce que bon, c'était la fac de Vincennes. Cela étant, je voulais faire du cinéma, évidemment. Hein, puisque, mais je faisais des photos, j'ai quelques photos de manifs, mais c'était pas mon...
avoir un appareil photo. Hein.
Oui, alors voilà, déjà, bon, ça, j'en avais pas. Donc ça, c'était très compliqué, puis j'avais pas d'argent du tout. Et à la fac de Vincennes, j'avais un Solex, un 3800. Et donc j'allais à la fac de Vincennes, j'habitais rue du Verbois à l'époque, un truc qui faisait 12 mètres carrés, quoi, que c'était les parents de Christine qui payaient parce qu'elle était aux Beaux-Arts. Et puis on vivait de rapine, c'est-à-dire que bon, fauchait de la bouffe dans les supermarchés, enfin, des trucs comme ça, etc. Bon. Puis c'est vrai qu'on vivait de rapine à l'époque. J'étais crypto-situ, donc bon, tendance libertaire, et là, il y avait une caméra à Vincennes qui était une éclair coûtant, et elle était aux mains des Mao. Et là, il fallait être Mao pour tourner. Alors, peut-être 25 mètres de film dans l'année, parce qu'il n'y avait pas de moyens pour acheter du film et les développer. Donc, ça, c'était nenni. Ils m'ont passé la caméra une fois. J'ai mis l'œil dans l'œil-ton. J'ai rien vu du tout. Ils m'ont dit maintenant, c'est bien assez. Maintenant, tu rentres chez toi. Tu as vu comment c'était une caméra. Alors, il y avait des cours techniques, évidemment, dans les amphis. J'ai les bouquins, d'ailleurs, de mecs qui avaient du talent. Hein. Et je suis allé au service photo, qui était tenu par un prof qui s'appelait Gérard Girard, qui est toujours aujourd'hui à Paris 8, à Vincennes. Il erre dans les couloirs, avec, on m'a dit, avec un caleçon sur la tête. Et lui, il était Mao pro-albanais. Et alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il partait en Albanie à peu près 6 mois sur 12. Et il était fan de Enver Hoxha. Et il m'a laissé les clés du labo, du service photo. Et en partant, il m'a dit, je lui ai dit, écoute, c'est sympa, mais enfin bon, comment on fait si je dois faire les développements, j'ai un peu appris à développer et à tirer, qui était bien outillé, hein, le bon, c'est pas. Et il m'a dit, écoute, je vais te présenter à Libé, parce que Libé, c'était Libé des années, on est en 74 hein, quand même, hein, 75, hein, c'est pas le Libé, il vient de sortir. Moi, je l'ai vendu sur le campus, hein, le numéro 0 avec Jean-Paul Sartre, hein, je l'ai vendu, Libé. Et il me dit, je vais te présenter au service photo de Libé, et bah, tu peux faire des piges pour Vincennes. Et j'ai dit, on y va. Donc j'étais correspondant de Libé à Vincennes. Alors les négatifs ont disparu, ils ont été brûlés dans le.
Mais avec quel appareil
quel appareil. Alors, l'été précédent, j'avais travaillé à la FNAC, boulevard de Sébastopol. Et là, j'avais emprunté 2 boîtiers Olympus OM1 et 3 optiques que j'ai revendus à mon oncle, qui est décédé. Et avec l'argent, j'avais acheté mon rêve, hein, parce que Leica M5. J'avais pas l'argent pour l'optique. Alors, en étant à Vincennes, donc au début, hein, les premières années, j'ai fait les manifs avec le boîtier M5 sans l'objectif. Et il y a un type qui est venu me voir, qui m'a dit, tu as déjà fait des photos comme ça? J'ai dit, mais non, regarde, j'ai pas d'objectif, je suis pas complètement con. Et il me dit, mais tu comptes faire quoi? Je dis, ben j'en sais rien, mais j'ai pas l'argent pour m'acheter un objectif. Il me dit, écoute, c'était une époque, bon, quand même, il y avait un peu de solidarité. Enfin, disons, les jeunes, ils se parlaient, quoi. Il m'a dit, écoute, moi, j'ai 2,50 mm Leica, je t'en vends, hein. Tu me le payes en 12 mois tempérament. Ça me faisait, je sais pas, des genre 60 francs par mois. Ça allait. Ben, donc, j'ai fait mes premières photos. Il m'a filé un film Tri-X. Et j'ai fait mes premières photos comme ça. Après, j'ai été voler du film au maître. Alors là, c'est rigolo parce que je suis en train d'éditer mes archives là, pour un bimensuel qui va sortir. Yann Morvan, sa vie, son œuvre. Et donc, je subtilisais les films, la Tri-X, Kodak, étaient dans des boîtes de 30 mètres, 17 mètres et 30 mètres pour le cinéma. Donc, je prenais ça, je découpais les films. Je mettais dans des boîtes. Des fois, c'était pas étanche. Alors, des fois, on voit, il y a des coups. Et, alors, il n'y a pas de. Comme c'est du film au mètre, parfois, on voit les photos se chevauchent sur le. C'est assez rigolo parce que j'ai du mal à scanner en ce moment. Mais ça me rappelle. Et je développais dans ma salle de bain. Et donc, j'ai commencé. Donc, on est en 74, là.
74, à Libé.
Voilà, donc Libé. Donc je fais des photos avec mon Leica 50, et puis donc tout ça. Et je fais des petites piges pour Libé, ça commence 75, etc. Le premier sujet, c'est le bidonville à Nice. Je retourne à Nice à Noël de fin 74, décembre, de la digue des Français, etc. Qui a strictement aucun intérêt, qui intéressait personne. Mais aujourd'hui, qui peut intéresser, parce que c'est un peu, disons, la genèse de l'immigration. Hein. Juste avant le regroupement familial. Donc on voit la vie des immigrés dans quoi ils vivaient, quoi, dans les bidonvilles.
Ce travail, c'est-à-dire ta jeunesse, ton adolescence, ce que tu vis, les gens avec qui que tu croises pendant ton temps universitaire, ta rapine, les sujets que tu commences à traiter, est-ce que c'est tout ça en même temps qui te conduit à t'intéresser aux blousons noirs? Ce qui était à l'époque les blousons noirs, ce qui sera aujourd'hui des gangs ou des bandes.
Écoute, je crois que mon principal défaut, qui peut être une qualité, c'est la curiosité. Donc, je me retrouve à Place du Tertre, à Montmartre. Et, parce que je crois qu'une journée ou deux, j'ai essayé de vendre des bijoux, etc., sur le truc, tu sais, Place du Tertre. Mais pas longtemps, parce que ça n'a pas marché, je ne suis pas très doué. Et je vois arriver un type comme ça, avec une banane, avec un blouson qui était en simili à l'époque, et des badges, et tout, et tout. Et moi, quand j'étais à Nice, j'étais fan de Quicksilver, de Grateful Dead, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, etc. Et le rock, pour moi, ça n'existait pas. Donc, je vois arriver un truc, et puis il a des badges, et je lui pose la question. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, ouais, quoi, tu connais pas? Il dit Cochrane, Gene Vincent. Et je dis, non, pas trop. Oui, je connais les noms, hein, je suis pas complètement idiot, mais c'est pas mon truc. Il me dit, bah oui, nous, on est des rockers. Ah, je lui dis, bah ouais, c'est quoi les rockers? Et puis bon, bah, je faisais des photos aussi, hein, donc je lui dis, mais il me dit, ouais, on est une groupe de rockers, etc., on n'aime que le rock, on sort le samedi soir. Et le type avait mon âge, à peu près. Il devait avoir 21 ans, quoi, tu vois. Il avait mon âge, il était apprenti boucher. Et je lui dis, j'aimerais bien faire une photo de toi, tu vois, faire commencer. Il me dit, ok, je vais réfléchir. Il revient le samedi, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Hein. C'était un peu pas de téléphone. Donc on se donne rendez-vous d'une journée sur l'autre à un endroit. Donc là, il revient, il me dit « Ok ». Et je fais deux films que j'ai hein, de lui, un film dans la rue, et puis chez lui, il avait une chambre de service avec des posters, etc. Et il me dit « Écoute ». Et là, on est octobre 75, il me dit « Il y a une bande de copains, on va aller septembre-octobre, on va aller au Puce de Clignancourt, parce qu'on va acheter un disque là-bas ». Et là, il me fait rencontrer une demi-douzaine de potes qui étaient comme eux, etc. Je les ai retrouvés, là. Il y en a un qui est pompier à Marseille, etc. Et je commence à faire des photos comme ça. Et de fil en aiguille, il me présente d'autres gens, etc., etc. Et donc, ça a duré de, on va dire, en juin 75 jusqu'à... les dernières photos, je les ai faites en juin 77. Et pendant deux ans, je rencontre tout un tas de gens dans les squats, les proto-Hells Angels, comme ça. Et j'accumule.
Et t'es accepté?
Oui, parce que personne ne les photographiait à l'époque. Tu sais, il y a quelque chose. Aujourd'hui, on est dans à peu près la même situation. C'est que la photographie, c'était quoi dans les années 70? C'était la publicité, la mode, photos de bouffe, etc. C'était pratique. Je veux dire, la photo d'art, c'est venu à peu près à ce moment-là, avec Arles, Gibson, on commence à parler, Cartier-Bresson, mais c'était pas encore vendeur, c'est-à-dire qu'il y avait une belle photographie qui était pratiquée par une aristocratie, Cartier-Bresson, les Bouba, Doisneau est arrivé après, j'ai vu l'arrivée de Doisneau, parce que quand il y a eu le gouvernement populaire de Mitterrand, ils voulaient trouver un héros photographique populaire, ils l'ont inventé, et à l'époque, c'était quand même un hobby, quoi, comme le golf, t'étais photographe, l'Arctique, par exemple, jamais travaillé de sa vie, et si tu voulais gagner ta vie en faisant, tu faisais un peu ça, la pub, la mode, etc., ou de la presse. La presse, mais à quoi s'intéressait la presse? Aux grands événements. Moi, je n'avais pas accès, t'as 20 ans. Ou le showbiz, ou les kings and queens. Ce qui est toujours un peu la même chose aujourd'hui. Donc, moi, pas d'accès aux familles royales, pas d'accès au showbiz. Ils s'étaient tenus par Salut les copains, tous ces gens-là, parce que moi, j'avais rien. J'étais quoi? Un petit voyou, chien perdu sans collier, quoi, qui se baladait avec un boîtier. Je ne pouvais pas faire ça. Et la presse, c'était compliqué. Tu avais des agences qui s'étaient créées, tu avais Gamma et Sigma. Et là, il fallait un CV, tu rentrais pas comme ça, quoi. Alors j'ai fait un truc, c'est que quand j'ai eu mes premiers blousons noirs, j'étais frappé. Alors je disais quand même zoom et photo à l'époque, j'étais pas idiot, j'étais informé, je savais que c'était comme ça. J'étais frappé chez Magnum. Et c'est la seule agence qui m'a permis de rentrer. Et je suis monté dans les étages. À l'époque, ils étaient rue Christine, Magnum. Et j'ai été voir leur bibliothèque. Et je suis tombé sur un livre de Danny Lyon qui s'appelait « Les Bike Riders ». Et ça m'a donné un coup de fouet en me disant « Je veux faire les Bike Riders en France ». Et donc, j'ai continué. Après, quand j'ai eu un petit corpus... de photos de blousons noirs. J'avais pas encore les Bike Riders, les Hells. J'ai été voir, à l'époque, il y avait un magazine qui s'appelait Photo Reporter. Et là, il y avait Claude Nori qui m'a reçu, qui a vu mes premières photos. Il m'a dit, alors, je vais te donner un conseil, t'arrêtes tout de suite, t'es vraiment pas doué pour la photographie, laisse tomber. Donc, je suis sorti dans la rue, j'ai essuyé une larme, je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup, et je dis, toi, mon petit gars, tu vas voir si je suis pas doué pour la photographie. Donc ça m'a motivé aussi. Donc j'ai eu deux motivations à l'époque. Magnum, où ils m'ont très bien reçu. Ils m'ont même donné un sujet à faire, Roland Garros, pour dire on va le prendre comme apprenti. J'ai rencontré René Bury, qui était adorable, qui m'a donné des conseils, etc. Et Claude Nori, qui m'a envoyé balader en me disant que j'étais pas doué. Bon, donc ça m'a donné un boost, les deux, un peu l'humide et le sec, en même temps. Et je me suis dit, il faut continuer. Et j'ai continué. Et je vivais, à l'époque, en faisant, alors bon, bah, j'étais plus à la fac, j'avais quitté, j'avais fait un bout d'agence photo libre, après un bout d'agence normal, évidemment ça payait pas, hein. Faut dire, les photographes qui se plaignent aujourd'hui, mais il n'y avait pas un rond, hein, à part les grandes stars, les Caron, les gens, enfin bon, les gens de Gamma ou Sigma, qui faisaient du showbiz, hein, qui gagnaient leur vie en faisant du showbiz. Caron, on voit très bien, il gagne sa vie en faisant des concerts, hein, c'est pas en faisant, bon. Et donc, je faisais des stands. Par exemple, j'allais à Porte de Versailles. J'avais monté, avec un ami, avait monté une petite société, un studio rue du Faubourg Saint-Antoine. Jacques Parotte, il s'appelait. Et ses parents avaient peu d'argent. Donc, il avait monté un studio et on photographiait des meubles, hein, de rue du Faubourg Saint-Antoine. Et moi, je faisais les salons. C'est-à-dire que tous les salons, prêt-à-porter, foire de Paris, etc., je faisais des photos et puis j'essayais de les vendre après. Comme ça, je passais un peu comme un voleur parce qu'il y avait un photographe officiel qui faisait ça à la chambre en couleur. Moi, je développais dans ma salle de bain, j'amenais des tirages pourris et les mecs, bon, par pitié, ils m'achetaient ça 10 francs, hein, je les vendais à l'époque. Et ça m'est resté d'ailleurs. Maintenant, je vends des photos à 100 euros sur les festivals. C'est mes années, les années salon. Et donc, je vivais comme ça, je vivotais comme ça. Mais bon, ça allait. À l'époque, le coût de la vie, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'écran plasma, il n'y avait pas de voiture électronique. Hein, il suffisait d'avoir un Solex et puis un peu de film.
Mais justement, si on revient à ces époques et ce travail au long cours que tu commences, mais tu ne sais pas à l'époque que ça va durer si longtemps. Mais aujourd'hui encore, tu es toujours avec tes blousons noirs, tes gangs. Tu es passé du rock au punk, au hip-hop, au rap. Tu es à Paris, tu es à Marseille. On se rend compte aussi que tu fais un travail, entre guillemets, d'ethnologue, sociologue de l'image.
Ouais, c'est de l'anthropologie, ouais, c'est un travail d'anthropologie.
Parce que ces blousons noirs de 75, 76, 77, où tu fais ton premier bouquin, Blousons noirs, 22 ans, 23 ans, il y a quand même une chose étonnante, c'est que tu peux toi, en un temps, faire ce rapport-là, alors que tu as fait des milliards d'autres choses, entre ce que c'était ces gens-là et ces blousons noirs de l'époque et ce que sont les gangs d'aujourd'hui.
Ah mais bon, je suis pas marxiste, mais je pourrais mettre une grille marxiste sur le travail que je fais aujourd'hui, parce que de toute manière, on est dans un univers, un monde qui va se radicaliser. Là, je travaille beaucoup là sur dans un endroit qui s'appelle Corbeil-Essonne, un peu d'une manière ethnologique et sociologique. Il y a quelque chose qui est clair. La politique est liée à l'économie. Je veux dire, l'économie détermine la politique. Dans les années 70, on a une immigration qui est d'origine italienne, portugaise, polonaise. Donc mes petits gars, bah, ils sont d'origine italienne, portugaise, etc. Les parents se sont mieux intégrés, parce qu'une façon de s'intégrer, c'était la religion, c'était l'Église. À partir, je crois, que du concile Vatican II, en 62-63, la religion se casse la gueule. Et je veux dire, tout le tissu qui était élaboré d'intégration des populations, je dirais un peu limitrophes, hein, se délite. Aujourd'hui, la religion n'est plus catholique, chrétienne. Aujourd'hui, elle est musulmane, la religion qui doit intégrer. Le problème, c'est qu'elle n'est pas vraiment compatible avec la religion chrétienne, puisqu'ils sont quand même longuement affrontés. Donc, à partir des années 77, quand il y a le regroupement familial, c'est-à-dire que quand les populations du Maghreb, enfin, les familles reviennent joindre et commencent à fabriquer des enfants, ils en font beaucoup, hein, ou les africaines, eh bien là, on revient avec un nouveau problème. Et donc, le problème, c'est que le lumpen prolétariat, finalement, les jeunes qui ne vont pas trouver de travail, etc., ils se groupent. Moi, j'ai assisté à ça. À partir comment par exemple, fin 76, les voyous faisaient la chasse aux noirs. Ils cherchaient des jeunes Africains pour leur casser la gueule. Dire, le bamboula, on va le défoncer, etc., etc. Il y avait vraiment... Là, on peut parler de racisme aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec ce que ça a été à l'époque. Hein. Et tous ces jeunes... Moi, je vais les retrouver, bamboula. Alors, je ne sais pas si on peut le dire, parce que maintenant, en fait, je vais aller en prison, mais c'était comme ça qu'ils les appelaient. Hein. Et ils vont se retrouver ensemble à partir des années 80, et là, ils vont reformer des tribus. Et ces tribus... Autant mes gars qui venaient de Pologne, de machin, c'était le rock, parce qu'il y avait l'Amérique, c'était le pays de l'argent, de la liberté, etc. Eux, ils vont inventer leur propre code, le hip-hop, etc. J'étais à Beyrouth en 82. Il y a un photographe noir qui vient me voir, qui est chez Magnum, qui s'appelle Eli Reid. Il vient me voir, parce que bon, j'étais à Beyrouth, bon, je suis resté longtemps, donc il vient me voir, et puis on est copains, etc. Et il me dit, j'écoutais toujours de la musique. La musique, pour moi, c'est fondamental. Et il me dit, tiens, je vais te faire écouter ce qu'on écoute à New York. Et là, il me fait écouter Grandmaster Flash. C'est le début du hip-hop. Moi, par exemple, j'écoute en permanence Gilles Cotteron. Gilles Cotteron, c'est lui qui a inventé le hip-hop, c'est-à-dire le phrasé, etc. Et c'est extraordinaire. Ses paroles, etc. La poésie, les problèmes des Noirs aux États-Unis, etc. Donc, ça vient de là. C'est un mouvement qui vient du fond, comme ça. Comme le rock, c'était un peu la révolte des petits blancs, pour dire du prolétariat, on va, chez les Africains, ça va être des gens comme la noiritude, on va dire, qui va venir. Et donc ça, je le vois arriver, parce que j'ai les éléments. Quand même, j'étais à Vincennes, bon, puis j'ai quand même potassé. Hein, si vous regardez mes livres, j'ai tout Maspero hein, depuis les années 70. Hein, donc j'avais quand même une petite idée de comment fonctionnait l'économie, la politique. Je vois arriver ça et je me dis, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, comment on va. Et c'est fascinant quand on a les clés pour comprendre des mouvements de société, des mouvements sociaux, quand on a les clés de dire. Il va se passer ça. Moi, je sais exactement ce qui va passer dans les 5 ans là, qui viennent. Enfin, exactement. Enfin, bon, il y a toujours des nouvelles données, comme le Covid. Covid qui a sauvé le gouvernement des Gilets jaunes. Hein. Bon, pas pour très longtemps, hein, parce qu'ils vont trouver des vaccins. En plus, un de mes hobbies, c'est l'histoire. Et donc, par exemple, j'étudie quand même les empires, par exemple, comme l'Empire romain. On voit très bien que nous, on a exactement, si on prend tous les symptômes hein, comme une maladie, on a exactement tous les symptômes de délitement de l'Empire occidental blanc. Ça, c'est évident. Bon, donc, alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On prend un Kalachnikov, on va tirer, machin. Non, dans ma situation, je prends un appareil de photo et je raconte. Parce que les éléments que je peux montrer maintenant pourront peut-être servir, non, peut-être, tu peux dans 100, 200, 300 ou 400 ans. Mais c'est des éléments objectifs et factuels. Le problème de la France, c'est qu'on a eu une guerre qui s'appelait 14-18. Et ça, la jeunesse est morte. Le prolétariat de 14-18 est mort dans les tranchées. Donc il fallait faire venir des gens de l'extérieur. Donc on a une immigration forcée. Le problème, il est économique. C'est-à-dire que les classes populaires, elles ont besoin de s'exprimer. Mais en France, nous, alors à partir des années 70, Giscard, il a eu une idée géniale. Il s'est dit, bon, bah, pour faire la merde dans ce pays, on va prendre des Noirs et des Arabes. Hein. Comme ça, les petits blancs, ils resteront contre-maîtres. C'est tout. Mais bon, ces gens-là, ils ont une vie. Et le truc, c'est qu'alors, on parle aujourd'hui de communautarisme, mais ils se tribalisent. C'est-à-dire qu'ils disent « Ah, vous voulez nous prendre pour... » Paris, le métro à 6 heures, il n'y a que des Africains et des Nord-Africains. Peut-être un petit blanc et tout qui a raté sa vie, mais c'est comme ça que ça marche. Et s'ils n'étaient pas là, il n'y a rien qui marche. Vous allez à la Riboisière, ma femme, elle a eu un accident, il n'y a que des infirmières, les trois quarts, elles sont africaines, elles sont adorables. Je veux dire, les métiers les plus pourris, c'est les gens d'immigration qui le font. Pourquoi ? Parce que, pour les raisons historiques, on n'est pas là pour les évoquer maintenant. Mais moi, mon travail en France, il est en partie... disons sur les gangs, c'est des gangs qui sont issus de l'immigration. Et pourquoi? Parce que en France, après 14-18, où on a saigné la France, les Français ne voulaient plus se battre. Et donc, quelque part, ils ont pris les meilleures places. Hein, et ils se sont dit, on va pas se faire chier, on va faire venir les autres, et puis ils vont bosser à notre place, c'est tout. Donc ça s'arrête là. En revanche, les Anglais... qui sont alors beaucoup plus racistes que nous, eux, ils ont toujours un prolétariat blanc très virulent. De moins en moins maintenant. Alors, ils ont fait venir, évidemment, les gens des colonies, parce qu'ils ont dit on va calmer tout ça, etc.
Mais sous Thatcher, ça, c'est bien. Elle a radicalisé sa propre société.
Absolument. C'est Thatcher qui a foutu. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait, Thatcher? Après les grandes grèves des mines anglaises, elle s'est dit, oulala, ouverture au libéralisme, ouverture à l'étranger, etc., etc. Mais moi, j'arrive vers la fin, le début des années Thatcher. Thatcher, elle a été nommée en mai 79. Moi, j'arrive à Londres en octobre 79. On est encore dans la radicalité des punks, c'est-à-dire de dire « fuck the system ». Mais après Thatcher, c'est fini, parce qu'elle va prendre des pacos, elle va prendre des trucs qui vont faire les sales boulots. Ce qui paye aujourd'hui, maintenant, hein, parce que ces gens-là, c'est des êtres humains, hein, comme toi et moi. Là j'étais à Corbeil-Essonne, j'étais avec au Tarteret, si tu veux. Et on parle de tout ça. Et ils disent, Tarteret, t'es à 20, t'es à 40 km de Paris. Le mec, il est à 40 km de Paris. Il a un nom, à consonance, on ne sait pas quoi. Comment veux-tu qu'il progresse? Il faut vraiment être super génial. C'est-à-dire qu'on peut trouver une Rachida Dati. Mais putain, mais il y en a un sur un million. Alors que si tu prends un Français de souche, par exemple, il va trouver un boulot sans problème, même si c'est un nul et incompétent. Ça, c'est une réalité du terrain. Mais bon, ça, tu peux pas le changer, parce que le mec, il est à 40 km, parce qu'il a un environnement qui est quand même hard autour de lui. C'est pas évident. Si tu travailles bien à l'école, tu te fais casser la gueule. Là, c'est compliqué. Hein.
Mais les gangs, par exemple, si tu prends les gangs de Marseille, que tu connais aussi, ce sont ces gangs de l'immigration qui ont pris le pas sur le banditisme traditionnel marseillais.
Moi, ce que je connais, c'est les Calabrais. Moi, je connais les Calabrais. Je connais pas tous. Voilà. Donc moi, j'ai ma filière, c'est les gens de Naples, de Calabrais et de Naples. Bon, je connais pas tous les gangs, je connais que ceux-là. C'est sur eux que je vais travailler. D'accord ? Après, je suis pas sûr, comme ils sont en bagarre avec les autres, je suis pas sûr que je puisse faire les autres. Mais bon, il faut s'appuyer sur, disons, une communauté. Là, c'est une communauté, disons, italienne, hein, c'est italien, hein, qui sont à Marseille. Mais il y a aussi des Russes. En revanche, je vais avoir des Tchétchènes à Dijon. Ils sont d'accord. Mais tout ça prend du temps et c'est compliqué. Et c'est touchy, c'est-à-dire, je vais pas voir les gens en disant ah, c'est. Bon, là, je parlais à André Frère, là, de l'éditeur, et je lui dis tiens, je vais aller à Marseille, là, j'ai une piole, et ça va pas me coûter trop cher, je connais les gens, je vais commencer à travailler, mais je sais pas comment ça va se passer. Là, j'ai commencé à. Là, je suis au Tarteret, bon, je suis bienvenu au Tarteret, j'ai photographié ce que je voulais et tout. Mais pourquoi? Parce qu'ils connaissent mon bouquin Gang Story, parce que j'ai un pote qui s'appelle Kizo, qui a la grande borne, qui est un peu un mentor, donc qui a dit tu peux y aller avec Yann, je le garantis, etc. C'est des garanties. On est dans des. Lui, on peut, lui, on peut pas. Tu te balades là avec un boîtier au Tarteret, bah, t'as plus de boîtier, quoi. C'est tout. Mais tu y vas avec des garanties, tu y vas avec les chefs, etc. Et pour que les chefs, ils te garantissent, il faut. J'étais à Champigny-sur-Marne pendant le confinement, en avril. Champigny, c'est là où il y a eu l'attaque du commissariat. J'étais avec les chefs là-bas. Et à un moment donné. Il prend mon nom, il regarde, et puis tout d'un coup, il y en a un qui vient me voir, il me dit « Tiens, Yann, regarde !» Et il dit « Salut Yann, tu vas bien ?» Je dis « Tu vois, c'est le frère de Kizo, de la grande borne. » Donc les mecs, ils disent « Ouais, on est avec ce mec-là, tu connais ?» Il dit « Ah ouais, ouais, il n'y a pas de problème, tout va bien, etc. » C'est comme ça que ça marche. Donc ça, c'est un travail, comme disait Picasso, excuse-moi, hein, le truc, c'est que quand il va bouffer, puis il fait un dessin sur la nappe, le mec, il dit « Mais attends, t'as fait ça en 30 secondes ?» Il dit « Non, mais il y a 60 ans d'expérience derrière. » Tu vois, c'est ça aussi, je veux dire. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent aussi, les jeunes photojournalistes, c'est du temps.
Ça t'amène aussi à des mauvaises rencontres, parce qu'un jour, tu prends un assistant qui s'appelle Joe, mais ça se passe pas très, très,
ah bah,
très bien.
Ah, c'est Guy Georges, oui. Ah bah oui, ah, mais oui. T'es pas à la. Il y a un type qui peut s'énerver. Avant-hier, c'est vendredi, j'étais au Tarteret, il y avait un mec qui était à côté, il m'a pas adressé la parole, j'ai pas adressé la parole. C'était touchy.
Oui, mais Joe, tu veux dire Guy Georges.
Joe, oui, bah, Joe, c'était le tueur en série Guy Georges, oui. Mais comment ça s'est passé, Joe? Tu veux savoir? J'avais un assistant qui s'appelait Salomon, qui était une force de la nature. Et vraiment, parce que dans les endroits où j'allais, c'était pas évident. Hein. Donc le type, il pouvait quand même faire la paix, hein, très, très rapidement. Alors, c'est à une époque où je faisais un travail pour Match sur la fracture sociale. Donc j'étais dans les squats, etc. C'était assez violent, etc. Je faisais ça à la chambre 4-5, et donc j'avais un gars qui vraiment qui m'appuyait, on va dire. Et donc Salomon se retrouve dans une sale histoire, où il y a meurtre. Donc il va en prison pour complicité de meurtre. Et de la prison... Il m'envoie une lettre et il me dit, tu sais Yann, tu te rappelles au squat de la rue Dido, il y avait un type qui sympa, qui était un peu noir, enfin bon, et il s'appelait Joe. Tu devrais travailler avec lui. Bah, moi je vais voir Joe, je lui dis, écoute, tu veux bosser avec moi? L'autre il me dit, pas de problème. Ça s'est passé comme ça. Comment deviner? Alors à l'époque, parce que c'était le gardien du, c'était celui qui faisait la, j'aurais pas la police, mais disons qui le gardien du squat de la rue Dido, il fournissait en shit, etc. Et après j'ai appris que bah après il est passé la rue Saint-Sauveur, si tu veux, et là pendant qui moi j'allais le chercher pour bosser, et c'est à ce moment-là qu'il il est tripé ces pauvres jeunes filles, quoi. Et ça, je comment le savoir? Une fois, je me rappelle très bien, je l'avais vu, j'avais été le chercher, il était dans le squat, c'était cassé, c'était un truc. Moi, j'ai des photos, évidemment. Il était roulé en boule comme ça, j'avais pas pu le réveiller. Je dis, merde, fais chier ce con, etc. Et c'était après, c'était sur mon agenda, c'était le lendemain d'un massacre qu'il avait commis, quoi. Et et après, ça s'est mal terminé parce qu'il a essayé d'avoir ma peau. Enfin, c'était un peu compliqué, tout ça. Et j'ai dû m'enfuir pendant des mois. Et quand je suis rentré à Paris, en allant au commissariat, j'étais tabassé tous les jours. Puis j'avais des menaces téléphone, on va te faire ci, on va te faire ça. Donc le commissaire les a serrés. Il est ressorti, il était indicateur de police, donc il n'est pas resté longtemps, quoi. Et puis après, il ne m'a pas fait chier. Et puis ils l'ont chopé en 98 avec l'ADN. Hein. Et puis ils se sont aperçus que c'était lui, quoi. Comment savoir?
Ce travail au long cours avec les gangs, les blousons noirs, les voyous, les gangs maintenant, ça n'a pas toujours été facile, parce qu'il y a aussi un moment où, par rapport à certains de ces gens-là, ou en tout cas un, tu te retrouves confronté au droit à l'image, au droit d'informer, au droit à l'oubli, c'est compliqué.
Oui, bah, y a toujours ça. Mais... Alors maintenant, je fais photo plus interview. Donc à chaque fois, je demande qu'il valide la photo et l'interview.
Mais là, c'était validé aussi, il avait bien...
Oui, mais là, c'était sur une fiche, c'était un modèle release. Et modèle release, tu peux le jeter à la poubelle, il y a le droit de rédemption, enfin, il y a tout ce que tu veux. Alors que là, je leur demande de valider la photo par mail et... À chaque fois, il y a un texte, il y a un verbatim, je demande qu'il valide en disant « nous sommes d'accord ». Donc, à quelque part, ça fait plus preuve qu'un bout de papier où il signe, etc. Pour Hexagone, j'en ai des centaines de bouts de papier. Je n'ai pas eu de problème pour le moment. Mais je sais que si je produis ça, on va dire « oui, mais monsieur, à l'époque, ils étaient mariés, maintenant ils sont séparés, donc ils ont vu la photo ». Ça m'est arrivé, hein. Des trucs de fou, hein. Et on ne peut pas deviner. Mais
Oui, puis à l'époque, il est voyou, puis maintenant, il est dircom d'une grosse boîte.
Alors,
quoi.
J'ai un voyou, j'en ai un qui s'appelle Messire, et dans tous les albums, alors c'est anti-faf, il est toujours présenté bien, il m'a quand même fait un procès, il a gagné. Je dis, mais pourquoi tu m'as fait ça? Il m'a dit, ouais, j'ai besoin d'un peu d'argent, etc. etc. Je dis, bon, bah, ok, why not, tu vois. C'est... Alors maintenant, il se rétracte, parce qu'on va ressortir un gang story. Il dit, non, mais je vais être dans le futur. Il dit, écoute, t'es gentil, mais là, quand même, t'as fait fort, là.
Et je reviens à cette connaissance que tu as semillée depuis 45-50 ans. Tu peux mesurer aussi, du coup, l'impact des politiques publiques depuis 40 ans sur ces milieux.
Il ne faut pas leur jeter la pierre. Ils ont essayé de faire des choses. Ils ont essayé. Je vois par exemple au Tarteret, le Tarteret en 2005, c'est là où il y avait les émeutes, hein, ils ont brûlé la mairie, etc. Ils ont reconstruit. Ils ont remis des logements, etc., etc. Le problème, c'est que ces logements, ils sont plus chers, ces nouveaux logements. Donc ça demande qu'il y ait des gens, qu'il y ait du travail, etc., etc. Donc ils ont essayé d'assainir par le haut, c'est-à-dire de se dire, bah, ceux qui n'ont pas de pognon, qui foutent la merde, on va les virer, on va mettre des gens qui ont un peu plus d'argent. Mais que faire? Que faire? C'est des populations aujourd'hui. On est dans un pays où, à partir de 83, le gouvernement français de Mitterrand décide la désindustrialisation avec Bérégovoy et Fabius. Peut-être à l'époque, ça correspondait un peu en se disant, bah, le libéralisme de Thatcher et Reagan montrait le chemin. Hein, l'économie était florissante. Donc pourquoi pas? Peut-être qu'à l'idée, à l'époque, c'était la bonne idée. Ça s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus de travail. Et en plus, ça continue. Vous allez dans les supermarchés, ils vont mettre des machines qui vont remplacer les caissières. Qu'est-ce qu'elles vont faire, les caissières? On est dans un monde où le travail... Alors, la grande idée, c'est de donner 500 balles à chacun pour faire des chômeurs, mais ils vont faire quoi, les chômeurs? Le vrai problème, je pense, des pouvoirs publics, c'est qu'ils ne sont pas dans la réalité. Ils ont une vision complètement dogmatique et idéologique de l'être humain. Ils pensent que l'être humain est quelque chose de sensé, ce qui est faux, d'expérience. Parce qu'en étant dans tous les milieux, hein, vraiment de très très haut en très très bas, l'être humain est quelque chose d'assez crazy. C'est quelque chose qui n'est pas stable, qui est en proie à la fois des atavismes, de l'agressivité. Les pouvoirs publics pensent toujours avec un lambda qui prend soin de lui, qui est rationnel. Et la vie n'est pas rationnelle. Mais ça, on ne peut pas le dire, parce que ça, un peu comme on est dans un univers de mathématiques, il faut des lois hein, qui soient écrites dans le marbre. Mais ce n'est pas vrai. Vous savez, 45 ans, quand je me balade partout et je continue, je veux dire, c'est the party, hein, la vie. Hein. Vous ne savez pas, vous pouvez tomber malade, vous pouvez devenir fou, vous allez fumer, vous allez à travers un cancer, c'est un vrai bordel, quoi. Mais donc ça ne peut pas fonctionner. Parce que appliquer une logique, une rationalité à des éléments, des corps, quels qu'ils soient, hein, je ne parle pas de niveau de conscience, ni de, etc., où ça n'a pas de sens, trouver du sens, c'est très très compliqué. Il n'y avait que la religion qui pouvait marier ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait un truc, le paradis. C'est le paradis qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Donc c'était un truc un peu complètement... un enchantement. Il y a Marcel Gauchet qui a écrit ce bouquin, Le désenchantement du monde. C'est tout à fait ça. On a désenchanté le monde. Et les gens sont fous maintenant. Ils sont dans la rue, ils ne savent pas. Ils picolent, ils boivent, ils se battent et tout. Parce qu'il n'y a plus d'enchantement. Avant, on disait waouh. L'idée géniale de la religion chrétienne, qui est quand même la grande religion, il faut dire pourquoi. Parce qu'à un moment donné, toutes ces religions disent toi, tu es un pauvre être humain. Reste où tu es, que ce soit le bouddhiste, etc. Alors que le chrétien disait, avec la résurrection, disait, si tu travailles bien, si tu es gentil, waouh, tu vas monter au paradis, c'est génial. Donc il y avait toujours un espoir de faire mieux. Alors qu'aujourd'hui, non, il n'y a plus d'ascenseur social, on le voit très bien. Donc avant, on disait, bon, je suis pauvre, ok, j'en ai chié toute ma vie, mais j'étais honnête, propre, etc. J'ai élevé mes enfants, j'ai pas trompé ma femme, etc. Je vais aller au paradis. Non, n'y a terminé, paradis, zéro. Donc je suis qu'une grosse merde, et qu'est-ce que je fais? Je me bourre la gueule, et puis je fais chier mon voisin. C'est tout. Et ça, les pouvoirs publics ne peuvent pas le rendre, parce qu'ils ont une belle éducation. Et chez eux, c'est pas comme ça.
Et ce que tu dis là montre justement que tu as cette connaissance des gens qui fait que tu peux les photographier aussi parce que tu les respectes dans ce qu'ils sont.
Tout à fait. Moi, je ne juge pas. Et moi, je suis le premier à être comme ça. Hein. Je veux dire, disons, ils me ressemblent, on se ressemble. Et je les comprends et je ne les juge pas. Le vrai problème, je crois, ce qui désunit les gens, c'est le jugement. C'est-à-dire de juger l'autre. C'est-à-dire, tant que l'autre, il vient pas te foutre une baffe, etc., tu ne le juges pas. Il peut se balader à poil, il peut... Aujourd'hui, on parle de féminisme, etc., mais, ou d'homophobie, mais ça n'existe pas. Enfin, chez moi, ça n'existe pas. Je veux dire, moi, des nanas qui s'aiment, des mecs qui s'aiment, qu'est-ce que ça peut me faire du moment qu'ils m'obligent pas? Si on m'oblige à aller avec un mec, peut-être que je dirais, non, j'ai pas envie, merci, ça m'est déjà arrivé hein, de refuser. Hein. J'ai perdu des places pour ça. Hein. Mais bon... Parce que l'harcèlement, il va dans les deux sens aussi. Hein. Mais... C'est même pas un enjeu, c'est même pas, c'est encore de la fumée.
Tes sujets sont libres face à toi. C'est eux qui prennent la pause ou c'est toi qui les conduis? Comment tu fais avec ces gens-là?
Non, je leur demande comment ils ont envie d'être. En général, quand je fais une photo, quand je fais un portrait, je dis, écoutez, voilà, c'est la photo que vous mettrez sur votre pierre tombale. Comment vous voulez être? Alors ça les fait réfléchir. Et puis j'ai les mains, truc. Alors je leur demande tous de ne pas sourire. Alors ça, c'est la seule chose que je demande, c'est de pas sourire, parce que là, il n'y a pas pire que les gens qui sourient, ou alors c'est pour un catalogue de la Redoute, hein, donc on n'irait pas. Donc je leur demande, et puis de vider leur tête, de plus penser à rien, regarder dans l'objectif, de tout vider, quoi, etc. Et après, je leur dis, les mains, où on met les mains, est-ce que vous avez un outil ou pas? Alors j'ai fait l'outil, maintenant je fais moins, etc. Parce que ça dépend des sujets, là, dans Corbeil, là, où je fais du noir et blanc, très... au flash ring qui est très très violent, c'est un peu comme des photos qui sont un peu sculptées quoi, donc j'ai pas besoin d'avoir un accessoire que parfois je peux utiliser quand j'ai fait hexagone etc pour nommer par exemple une fleuriste, une fleur à la main ou bon bref, alors que là j'ai pas besoin puisque là on est dans un polar, donc la force doit sortir des visages, enfin de la lumière, des trucs comme ça.
Merci. Deuxième partie à suivre.